les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La vie de Jean-François Stévenin a quelque chose de romanesque. Né dans un petit village du Jura, près de Lons-le-Saunier, il entre, jeune homme, à HEC. Passionné de cinéma, il se retrouve un jour embarqué lors d'un voyage à Cuba sur un tournage et y travaille pendant 6 mois. De retour en France, il est, en 1968, stagiaire sur un film d'Alain Cavalier et devient ensuite assistant à la mise en scène aux côtés de Truffaut, de Jacques Rosier, de Rivette. C'est ce dernier qui lui offre l'un de ses tout premiers rôles au cinéma, puis Truffaut le choisira ensuite pour incarner l'assistant dans La Nuit américaine et quelques années plus tard, l'instituteur dans L'Argent de poche. En 1978, Stévenin réalise son premier film, Passe-Montagne, western jurassien dans lequel il joue aux côtés de Jacques Villeray. À la fin du générique de ce film, John Cassavetes est remercié en tant que « passeur d'énergie ». Le 11 janvier 1981, Claude Jean-Philippe, connaissant l'admiration de Stévenin pour Cassavetes, eut l'idée de l'inviter dans son émission « Le cinéma des cinéastes » pour parler de Gloria, sortie en salle quelques semaines plus tôt. De Gloria, il fut finalement assez peu question dans l'entretien, car Stévenin avait beaucoup d'autres choses à raconter et en tout premier lieu ses voyages en Amérique dont il revenait. La discussion partit un peu dans tous les sens, mais le talent de conteur de Stévenin, sa gouaille, son enthousiasme et son charme emportent le tout.
Ceux qui cultivent les beaux-arts, ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices.
Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné.
Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe.
Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût.
Aujourd'hui, nous faisons d'une pierre deux coups. Nous retrouvons Jean-François Stévenin, qui nous manquait, puisqu'il n'était pas venu au cinéma des cinéastes depuis de longs mois. La première fois que vous l'avez entendu, c'était pour parler de La Tortue sur le dos, de Luc Béraud, dont il était l'interprète. La deuxième fois, peu de temps après, c'était pour nous parler de Passe-Montagne, son premier film, qui reste à nos yeux le premier film français le plus important de ces dernières années. Il était revenu aussi, voilà quelques mois, je crois que c'était il y a un an à peu près, pour dire ce qui se passait précisément dans l'intervalle, c'est-à-dire entre deux films, quand un jeune auteur de film ne tourne pas, on ne parle plus de lui, et l'idée nous était venue de le faire venir avec Luc Béraud, Bertrand Manéfinter, pour dire ce qui se passait entre deux films. Et puis, le voilà parmi nous, aujourd'hui, pour parler de Gloria, de John Cassavetes, parce qu'il nous a paru que dans Paris, c'était lui probablement qui pouvait parler le plus directement de ce film de Cassavetes, parce que entre la sensibilité de Cassavetes et celle de Stévenin, il y a, pour ceux qui ont vu les films de Cassavetes et pour ceux qui ont vu Passe-Montagne, une parenté évidente. Alors Jean-François Stévenin, merci d'être là en face de moi aujourd'hui. Première question, bon, c'est celle que tous ceux qui ont vu Passe-Montagne se posent. Où en es-tu de ton prochain film, du deuxième, quoi?
Alors là, c'est bien un peu bizarre, parce que ce qui s'est passé, moi, je me suis, juste après le prochain film, comme il y avait en même temps le film de Béraud qui sortait, on m'a dit, c'est le moment, faut vite avoir un deuxième scénario, faut repartir, etc. Moi, je le sentais pas comme ça, j'avais envie de, pas de réfléchir, mais de m'imbiber un petit peu d'autre chose, de prendre une espèce de température, comme ça. Alors, j'étais en Amérique, parce qu'on m'a invité avec mon film, je me suis baladé un petit peu partout, là-bas. Ce premier voyage en Amérique qui était parti pour être un petit machin de 15 jours, finalement ça a duré 3 mois en 78. Ça m'a ramené en 79 aux États-Unis encore pour 3 mois, où j'ai vu des trucs formidables. Et puis le dernier voyage, c'était cette année. Alors là, faut que je te détaille un petit peu ce qui s'est passé. C'est que la première fois, bon, petit voyage culturel, bonjour, merci, film intéressant, d'accord. Et puis moi, j'ai traîné en voiture, Nevada et tout ça. Bon, je suis revenu un petit peu inquiet parce que je me suis aperçu qu'aux États-Unis, quand on connaissait, quand on arrivait d'Europe, comme ça, on vous faisait tout un petit avantage parce que c'est la vieille patrie, on est tous les enfants de Truffaut, etc. Alors ça va. Et puis ça s'arrête assez vite, c'est-à-dire que moi j'avais pas trop envie de jouer cette carte-là, ni de me mettre à parler anglais comme si j'allais habiter la moitié du temps à Los Angeles, le reste à Paris, tout un côté international bidon comme ça auquel je crois pas tellement. J'ai senti, moi, que la vérité pour moi ça avait été la table de montage, le Jura, les trucs comme ça. Je me disais peut-être que tout ça c'est trop gros pour moi aussi, j'en sais rien, je reviens. Bon. Alors, quelques mois après, on m'a réinvité à New York pour une semaine spéciale perspective du cinéma français, etc. Et là, il y a toute une série de circonstances qui se sont emmanchées. Je me suis retrouvé avec mon grand copain Bruno Nuiten, l'opérateur, qui lui était engagé sur un film de la Fox avec Bob Rafelson. Alors là, ça fait un peu tilt dans la tête, parce que Bob Rafelson, c'est le gars de Stay Hungry, Five Easy Pieces et tout ça. J'ai traîné 2 mois à présenter mon film dans des universités, tout ça, et j'ai rejoint Bob Rafelson et Nuiten sur le tournage de Brubaker à Columbus, Ohio. Et là aussi, j'en ai pris plein la tête, parce qu'en arrivant, là, je me rappelle, l'avion s'est posé une demi-heure après, j'arrive dans l'Hilton, au milieu des autoroutes et tout ça, et la standardiste me dit, mais il y a votre ami français qui est là, qui vous attend. Et c'était en plein milieu de la journée, il n'y avait personne dans l'hôtel, toute l'équipe était au tournage, les 200 mecs de la production. Et Nuiten était verdâtre, et il me dit, bon, il y a un pépin, voilà, Rafelson vient de se faire virer. Mais comment on vire un accessoiriste ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que, de la même façon, mais pas dans les mêmes conséquences. La conséquence en France, si on vire quelqu'un comme ça, qui peut, ou un stagiaire, c'est que le lendemain, il n'y a plus de film. On dit aux gars, faut pas exagérer, on n'est pas des bêtes, etc. Là-bas, il y avait un problème, Rafelson viré. Et toute l'équipe, quand même, au tournage, a tourné rien du tout. Et Nuiten, qui a eu ce réflexe complètement humain, mais très inhabituel là-bas, de dire, moi, je vais pas au tournage, s'il n'y a pas de metteur en scène, c'est lui qui m'a fait venir. Enfin, bon, on va se poser la question. Alors, il y a eu 17 jours de suspense comme ça, où le film s'est arrêté, où tout le monde partait, où tout le monde se faisait jeter, etc. Et au bout de 17 jours, ils ont réengagé Stuart Rosenberg, qui, quelques années auparavant, avait fait un film avec une star. C'était pas Redford à ce moment-là, c'était Paul Newman, dans une prison, avec plein d'acteurs, etc. Ils l'ont réengagé, il est venu. Et le film a continué, Nuiten, et ils ont rengagé Nuiten à ce moment-là, malgré sa conduite prise de la Bastille, etc.
Et toi ?
Alors moi, j'étais là complètement terrifié de voir toute cette dureté, parce que j'ai vraiment vu Rafelson, j'étais content pour lui. Moi, c'était son premier gros machin avec payé par un studio. Il y avait en même temps toute l'ancienne garde qui était avec lui, les gens de Five Easy Pieces et tout ça. Et quand il s'est fait virer, tout le monde a continué à travailler comme un seul homme. Alors là, j'ai vu que c'était un pays où c'était costaud, les rapports humains, là.
Oui, alors justement...
C'est insensé, cette histoire-là. Alors, d'habitude, on raconte, on dit en Amérique, ils virent n'importe qui, tout ça. Mais là, je l'ai vu. Alors, il y avait 3 ans de travail. Là, je les avais vus préparer... Il y avait un moment vachement bien, on chargeait les camions électriques à la Fox à Los Angeles, là. Et il y avait toute une équipe qui s'affairait, il y avait le Rafelson avec sa vieille garde autour de lui, c'était le truc en béton armé. Et 12 jours plus tard, après 12 jours de tournage, viré comme ça, en 2 secondes. Parce que les rushs allaient pas, ou je sais pas quoi. Rafelson, il a fait une petite surprise partie, on a bu 2-3 canons, et puis il est parti. Et avec Bruno, on était atterrés, quoi, atterrés que ça puisse se passer. Alors là, je t'accélère un petit peu le voyage.
Non, mais c'est passionnant, parce que ce que tu racontes, Jean-François Stévenin, sur l'Amérique, parce que justement, j'avais très envie de t'entendre parler de l'Amérique. Bon, il est question de Gloria, et ça tombe très bien, parce que cette dureté, finalement, on la retrouve dans le film de Cassavetes.
Oui.
Non, enfin, t'as pas senti quelque chose de...
Ben si, c'est-à-dire que dans le film de Cassavetes, pour parler, par exemple, simplement du début, qu'on a vu 50 000 fois, des mecs de la mafia qui exécutent quelqu'un, c'est filmé de telle façon dans les films de Cassavetes que d'un seul coup, t'as froid dans le dos parce que tu comprends que dans ces pays-là et peut-être même chez nous aussi, quand il y a une organisation décide d'éliminer quelqu'un, c'est tout simple et puis il y a des gars qui sont payés pour ça, puis ils le font comme si les flics n'existaient pas et ils passent droit à travers tout et ils vont faire leur boulot. Et il y a une espèce de rentabilité comme ça immédiate, c'est prévu et puis on le fait, un contrat ça s'exécute. Et Cazavette fait bien sentir ça dans le démarrage de son film, absolument, que c'est inéluctable que ce petit comptable va se faire étendre par des gars d'ailleurs qui sont pas, c'est pas du tout l'ambiance Coppola, le parrain, Godfather, Brando, tout ça. C'est vraiment un niveau très très en dessous, c'est des petits gars de la mafia, c'est un secteur, c'est une rue à New York, quoi. Et on a l'impression que c'est pareil dans la rue d'à côté, puis dans le bloc en bas, et puis à Chicago, et puis peut-être aussi au Havre.
Oui, mais alors, ce qui est étonnant, c'est que, oui, mais ce qui est étonnant dans le rapport entre les deux histoires que tu racontes, celle qui est sur l'écran, c'est-à-dire celle de Gloria, où on voit un petit comptable de la mafia se faire exécuter, et celle où tu racontes comment Raphaelson, Bob Raphaelson, le réalisateur de Five Easy Pieces, etc., se fait exécuter, par un des maîtres de
exactement
de,
pareil.
C'est ça, c'est-à-dire, marrant, hein. avec un jeune opérateur français qui a, quel âge il a à Newton?
Oh, pas, il a 33 ans.
C'est ça. Perdu dans son hôtel. Enfin, on imagine très bien la scène. Vous deux, ça devait être extraordinaire.
Oui, exactement. Nous, on parlait donc dans le hall. Moi, j'arrivais juste à ce moment-là de l'avion. Il me raconte tout ça parce qu'il était très mal à l'aise. Et l'équipe était partie tourner quand même. Parce qu'on avait dit, vous allez creuser des trous. Et puis,
comme les voisins continuent dans le film de Cassavetes.
Exactement. Ça, ouais. Et alors, le truc formidable, c'est qu'on a vu toute l'équipe rentrer le soir. Et tous les types disaient bonjour à Bruno. Et en même temps, au revoir. Alors, au bout de deux ou trois fois, nous, on rigolait. La troisième fois, on a commencé à essayer de comprendre pourquoi. Et le fait que Bruno soit pas allé au tournage, ça voulait dire qu'il avait décidé de partir. Et alors, ses assistants arrivaient, lui disaient, on a mis la caisse de cellule. Est-ce qu'on te l'amène à la réception, ou dans ta chambre? La secrétaire de production lui demandait, vous voulez partir sur quel vol? Vous allez directement à Paris ou vous repassez par la Californie? Mais il a pas dit qu'il partait, lui. Il n'est pas allé au tournage. Alors à chaque fois, lui disait « Non, non, mais moi je sais pas ce qui se passe. Je... »« Ah ben si tu restes là, on va boire un coup ce soir, on en reparlera. » Mais pour les types, il était parti. Et des types aussi de la bande à Raphaelson, c'est ça qui est extraordinaire. Pas que les mecs en blazer, cravate, comme dans les films d'ailleurs de la production, des mecs qui ont 35 ans, un pouvoir absolu de producteur exécutif. Pas uniquement cela, tout le monde, absolument, c'était général. Tout le monde venait serrer la main, adieu à Bruno, salut. Alors qu'il a pas dit qu'il partait. Alors là, on sent le truc, et je me rappelle, parce qu'après, on s'est retrouvés avec deux, trois acteurs dans une chambre, on a été écouter un concert de rock à Cincinnati, enfin, il y a eu toute une histoire, parce que le lendemain, on travaillait pas, c'était un samedi, puis on s'est dit, on a rêvé, c'est pas possible, là, personne le sait, c'est dans l'hôtel que ça s'est passé, tout le monde va se calmer pendant le week-end, enfin, encore des réflexes français, moi.
Absolument.
On s'est dit, ça va s'arranger, on va aller gueuler, ou je sais pas quoi, enfin, on va attendre, c'est pas possible qu'ils arrêtent, qu'ils perdent, parce que pendant ce temps-là, tout le monde payait à l'hôtel quand même, film de 10 milliards, tu vois. Et puis le lundi matin, rien du tout, c'est l'ordre qui règne, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, t'as un mot, le département du son est prié de passer à la production au premier étage, et puis là, les gars à la sortie disent, bah ça y est, on s'en va, on nous a jeté. Les exécutions ont duré comme ça pendant une semaine. Sans explication, Redford a repris un avion, est allé discuter avec les parrains en Californie tout de suite. Nous, on était à l'hôtel, le petit déjeuner, gin, tout ça, et puis voilà. Et puis au bout de 17 jours, le film a repris, 17 jours de tournage. Ils ont failli arrêter le film, malgré le décor qui est une prison d'État, qui a été repeinte. Bruno avait fait des efforts terribles pour faire croire qu'il y avait deux saisons dans le film, parce que Raphaelson voulait ça, etc. Et Rosenberg est arrivé en disant, bon, on a perdu combien de temps là? Alors voilà, moi je fais en 9 semaines, une caméra en plus, et voilà, 3 jours pour rectifier le scénario, et on recommence. Ah bon, alors d'accord, alors les dollars continuent à tomber, puis le machin se fabrique, et puis là j'ai vu une affiche là à Londres de Brubaker qui était à Deauville, là je crois, qui était... Alors là, on sent que d'un seul coup, il y a des... Ah, c'est un pays de pouvoir, comme ça, mais de direct, c'est-à-dire on dit, monsieur, fini, au revoir, merci.
Alors que tu vivais sur un autre romantisme, toi.
Bah bien sûr, parce que moi je le vivais aussi sur un autre plan, et là parce que j'étais avec Bruno. Donc je le vivais par rapport à lui, j'étais sidéré comment il allait pouvoir lui faire son travail au milieu de tout ça, parce qu'après il a réemmanché le film... Mais comme super chef opérateur, avec trois caméras, donc trois cadreurs différents, et lui, comment il allait se dépatouiller d'un truc comme ça? Oui, parce que j'oublie de te raconter quelque chose, c'est que Raphaelson voulait un certain style caméra à hauteur d'homme, etc., et que Rosenberg a voulu, lui, mettre beaucoup de contre-plongées, donc Bruno était obligé de démonter tout ce qu'il avait préparé pour 8 semaines de travail dans la prison. Les éclairages au plafond, tout ça, il a fallu tout foutre par terre. Alors ils ont travaillé pendant une semaine là-dessus, et donc quand ils ont fait le film après, ils ont éclairé plan par plan. Alors, le Bruno, il était forcément en retard, puisque tout le monde était prêt et que lui était obligé d'éclairer plan par plan. Enfin, ça devait être un truc complètement horrible pour lui. Avec des types qui pensaient bien que le petit Français allait rester dans son coin, allait dire d'accord, avec des chefs électriciens qui ont un pouvoir de démentiel, qui refusent de bouger quoi que ce soit. Tu leur indiques, d'après ce que j'ai compris, les différents diaphs que tu veux dans une pièce, le gars te le fait. Si t'es pas d'accord sur un effet, que t'aimerais que ça soit un peu le même diaph, mais un peu autrement, le gars te regarde en te faisant bien comprendre qu'il te le fait une fois, mais qu'il faut pas lui demander ça tous les jours. On fait des rapports comme ça de force insensée. Puis comme c'est la Fox qui était là derrière, hors de question qu'il y ait quoi que ce soit, pas de discussion, quoi. C'est comme ça que ça se passe.
Jean-François Stévenin, alors bon, qu'est-ce que tu faisais, toi, dans cette prison ? Tu étais acteur ?
Non, pas du tout. Moi, j'étais passé. Moi, je rentrais, mais après 2 mois et demi de vadrouille américaine, de passe-montagne qui passait à Portland, Oregon, Miami, Floride et tout ça, il fallait quand même que je rentre. Moi, j'avais envie de voir mon fils et tout. Bon, il fallait que je rentre. Et j'ai eu une huitaine au téléphone qui m'avait dit « passe quand même, dire bonjour ». Et je suis arrivé au milieu de cette catastrophe, et puis tu vas voir, il y en a une deuxième là juste après. C'est que quand le film a repris Brubaker, moi je suis parti à New York, là je suis arrivé, il y a l'aéroport LaGuardia, puis il fallait changer à Kennedy, et là je téléphone à Cottrell, qui est un Français formidable. Tu le connais, Cottrell?
Oui, bien sûr. Oui. Il a été producteur...
C'est lui qui a introduit Romer aux États-Unis.
Oui, puis il a été producteur de Stage, etc.
Oui. Alors, et le Cottrell me dit, j'ai pas le temps de te parler, mais viens vite, on est en train de tourner avec Wim Wenders et Nick Ray. Et viens tout de suite, enfin je t'expliquerai ce soir. Et je me retrouve dans un petit bistrot espagnol de New York avec une toute petite équipe. Alors d'un seul coup, comme à Paris, surtout sortant de Brubaker, c'était assez drôle, on se retrouve, on était une dizaine de gars. Il était en train de tourner Nick's Movie, le film sur Nicolas Ray. Et en fait, tout allait très vite. Lui partait à Cannes. Wim Wenders était obligé de rentrer en Californie pour travailler sur Ahmed, je pense. Et au bout de 3-4 jours, Cottrell me donne les clés d'un appartement, me dit « Tu t'occupes des plantes vertes, reste là et occupe-toi de Nick, qu'il n'ait pas l'impression d'être tout seul. » Alors là, je me retrouve dans une position... Moi, j'avais vu 3-4 films de Nick Ray. Je savais que j'étais abasourdi par le personnage, tu vois. Et je tombe sur ce monsieur qu'on allait sortir de l'hôpital, qui était mourant à l'hôpital, que Cottrell, on mettait 1h30 pour l'habiller. Et puis dès qu'il commençait à s'habiller, il allumait des cigarettes, on débranchait le truc à oxygène, on se retrouvait dans un taxi, on allait voir les Rush. Et dès qu'on était en projection de Rush, la voix de Nick Ray qui s'élevait pour demander tel ou tel truc, humainement c'était un truc extraordinaire. Et alors après, je me suis retrouvé, moi, donc 4 semaines à New York, avec Cottrell qui vérifiait tous les jours, depuis la France, que j'allais bien voir Nick Ray. Moi, Nick, je voulais pas jouer le copain de la dernière heure, comme ça, c'était une situation terrible. Et en même temps, un type tellement lucide, tellement chaleureux, tellement cinéaste de tous les côtés, il s'agissait pas de biaiser, de lui dire, tiens, t'as bonne mine, etc. Alors après, il a plus voulu retourner à l'hôpital. Il était chez lui dans le village, en bas à New York, et donc tous les 2-3 jours, alors je passais, on regardait la télé comme ça, c'était une période complètement émouvante d'avoir rien à se dire, et puis d'être devant un gars qui d'un seul coup dit, tiens, j'ai même plus envie de boire de bière, même de fumer, tout me fait mal, faut que ça arrête, tout ça. Puis qui dit ça avec l'œil qui sourit en même temps, enfin une espèce de lucidité, puis mourir dans le cinéma, parce qu'il était en train de tourner ce film, qui est d'ailleurs formidable, le film de Wenders, parce que moi je me demandais vraiment comment ça pouvait marcher, et vraiment le film raconte absolument bien ce genre d'émotion qu'on peut avoir quand il y a un grand géant comme ça qui s'en va avec une espèce de grimace, de sourire et d'envie de tourner. Quoi. C'est-à-dire qu'il avait 22 ans, Nick Ray. C'est incroyable. Bon, bref. Alors, une fois tout ça parti, et là, je t'enchaîne sur la suite. Tu vois. Moi, à un moment, je suis parti là parce que j'en pouvais vraiment plus de tous ces rapports. Et arrivé à Paris, je suis tombé sur Faraldo et on a commencé à tourner quelques semaines plus tard de Lyon au soleil. Alors après, ça nous emmène en 80.
Tu n'as pas répondu à une question importante. C'est-à-dire que, quand je t'ai connu, et il y a même une dimension américaine, aussi bien dans ta façon de vivre, les motocyclettes, que dans Passe-Montagne, d'une certaine façon, puisque c'est un peu un western, Passe-Montagne. Tu avais fait une affiche qui était comme celle d'un western. C'est-à-dire qu'il y avait, manifestement, dans ta vie, comme dans ce que tu faisais, au cinéma, une sorte de fascination romantique américaine. Et qui, semble-t-il, a cédé au choc de la réalité.
Oui et non. Ce qui s'est passé d'effectivement de bizarre, c'est que je me suis retrouvé Là-bas, d'un seul coup, avec une envie, je me suis senti d'Europe. Je me suis senti à moitié allemand, à moitié italien, jurassien, suisse. Je me suis senti... Alors que je croyais que j'étais un enfant perdu de l'Amérique et qu'un jour j'irais là-bas, que ce serait le grand choc et que j'y resterais peut-être, je me suis aperçu là-bas que j'avais rien à faire en Amérique, si ce n'est d'y aller peut-être une fois par an, parce que là c'est formidable, mais que j'étais pas du tout... J'étais vraiment tout ce qui m'habite, le goût pour Céline, tous ces machins-là, ça n'a de sens qu'en Europe. Je me suis senti poussé par, effectivement, un vieux pays latin.
Tu veux pas savoir à quel point tu me fais plaisir en disant ça, parce que c'est une des choses qu'on vit actuellement, je crois, le plus violemment et en même temps le plus secrètement, c'est-à-dire la colonisation américaine, dont on a parlé, donc, dans la mesure où c'est une colonisation essentiellement culturelle, donc finalement fondamentale, à quel point le peu de résistance actuellement à ça, enfin, c'est complètement évident, c'est-à-dire que... aujourd'hui autour de nous, et de voir comment ta génération, puisque quand même tu es une génération déjà un peu en dessous de la mienne, commence déjà à renifler le piège, alors que celle des années 60 y est tombée en plein. Il me semble que c'est ça. Enfin, c'est
Oui, parce que tout est compliqué là-bas. Puis après, alors ce qui est très bizarre, c'est que dès que l'avion se repose en Europe, on entend tout un tas de clichés où il y a rien qui va. On entend ah oui, oh, ce pauvre Wim Wenders, il peut pas s'en sortir. Tu te rends compte, un film de 10 milliards, Coppola, il est en train de le sucer jusqu'au bout du machin, il n'y arrive pas, etc. On entend que des espèces. Tu vois, c'est pas faux, mais en même temps, moi je me suis retrouvé, j'étais au mixage d'Apocalypse de la bande de la version de Cannes. J'étais en projection avec le Coppola, on a vu le Zyberberg, Hitler, là, tu sais, les 7 heures, et l'autre, au bout de 7 heures, qui se fait un sandwich dans la cuisine, moi, j'étais là, en tout petit français, moi, je brillais pas, avec le passe-montagne qui était dans les caisses de la voiture qui était dehors, tu vois. Le Coppola qui se tartine des rillettes, qui boit un coup de pinard de ses propres vignes, tu vois, dans Californie, tout ça, et qui décroche le téléphone, qui appelle Zyberberg, qui dit, bon, ce machin, c'est formidable, moi, ça me plaît, on va tirer une copie couleur, je vais te le passer, on va se démerder, t'en fais pas, etc. Bon, on rêve quand même que des gars comme ça s'occupent de nous. Or, moi, j'y étais tout petit dans un coin. Il a acheté un resto à Wim Wenders qui s'appelait Pim's Burger. Il l'a débaptisé, il a mis Wim's Burger, tu vois, qui était devant. Il y a tout un côté comme ça. Alors, après, quand on te donne effectivement 10 milliards, que t'aies des contraintes un peu de tous les côtés, c'est ton choix. Mais je veux dire, c'est... rien n'est bien, rien n'est mal, tu vois. J'ai vu tout un tas de gars aussi à moitié américano-français qui prennent des avions toutes les 3 semaines pour revenir, qui se font complètement piéger par une espèce du rôle du petit français en Amérique qui rêve et qui fait rien. J'ai vu tout ça aussi. Puis j'ai vu le Cotterell qui, quand même, grâce à la production, grâce à Pascal Daumont, à Roger Diamantis, arrive à financer quand même Nick's Movie, un film sur Nick Ray, donc qui est financé pratiquement par des petites salles du quartier latin. C'est ça qui est drôle. À New York. Et rien n'est vraiment noir et blanc, tu vois.
Bien sûr,
et donc,
bien
je
sûr.
M'en suis pas encore vraiment remis, parce que les écarts de température sont très très forts, tu vois.
Bien sûr.
Moi, je suis parti là-bas, éberlué, froid dans le dos, chaud dans la tête et tout ça, mais le destin a fait que 6 mois après, j'y suis retourné comme acteur. C'est ce que je te raconterai après, dans une super production où là, j'étais acteur.
Vas-y. Vas-y, parce que...
Ce qui s'est passé...
Parce qu'il est question de l'Amérique, finalement. Notre émission d'aujourd'hui a un sujet qui est l'Amérique. Et il me semble, d'ailleurs, que c'est très curieux, parce que j'aurais jamais cru à ce point-là que les deux... J'ai dit une pierre deux coups, mais en réalité, il s'agit du même coup, puisque en t'entendant Jean-François Stévenin parler de l'Amérique et de tes expériences américaines, j'ai en tête les images de Gloria. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quelqu'un qui nous écouterait et qui t'écouterait aujourd'hui, après tout, c'est la meilleure préparation possible pour voir le film de Cassavetes, je crois.
Ah oui, puis tiens, j'ai une anecdote encore là-dessus, tu vois.
Vas-y, sur
l'Amérique.
Vas-y.
C'est que l'interruption américaine s'est fait que je me suis retrouvé dans un théâtre à Paris, Trocadéro, en train de jouer un dimanche indécis dans la vie d'Anna, Jacques Lassalle, etc., sur les planches.
Oui.
Mais alors, pièce sérieuse, intellectuelle, concentrée, distancée, tout ce qu'on veut, tu vois. Et pour moi, c'était une expérience, un toboggan fantastique. Niveau acteur, c'était une... j'y repense tous les jours, tu vois, ça m'a vraiment... Et au milieu de tout ça, j'ai fait un casting, gros film américain, et cherchais un type en Europe. Alors j'ai fait un casting, puis j'ai tout oublié, et puis un jour, le télégramme est arrivé, c'est vous. Alors là, je te garantis que j'ai eu les battements cardiaques sérieux, c'est que je suis passé directement de la dernière représentation au Trocadéro, à Londres, au studio, et je me suis retrouvé en face de... Chris Walken, qui était le type que je venais de voir dans Deer Hunter, à New York, au Corona Theater 6 mois plus tôt. Et je me suis retrouvé à 10h du matin, on a dit bon, on répète, et je me suis retrouvé embringué dans une équipe où tous les mecs ont le nom sur la chaise, tous les plans que j'avais dans la tête, le rêve de gosse. Et au début, j'ai cru ne pas pouvoir jouer parce que j'étais comme au cinéma, tu vois, j'entendais en VO. Les mecs, ils te regardent, et toi, tu dois leur répondre, et tu fais un exercice linguistique terrible, c'est-à-dire que tu cherches la phrase en anglais, au lieu de te laisser aller à l'action. Et ça, le film s'appelle Dogs of War, les chiens de la guerre, ça sort à Paris en 3 semaines. Et je me suis retrouvé embringué là-dedans.
Alors, c'est un film de qui ?
De John Ervine, un anglais. On était 130 en Europe. Il y avait 15 jours à Londres, au bout desquels j'étais prendre mon fils sous le bras, tellement c'était un truc formidable, mon fils qui a 6 ans. Et on est parti. Et je me suis retrouvé, donc, 6 mois après avoir présenté Passe-Montagne en Floride, je me suis retrouvé en Floride, déguisé en touriste, parce qu'au niveau des visas, j'avais pas le droit de travailler, etc. Sheraton, et là, on était 153 personnes, la grosse production américaine, le rêve de gosse, le film avec les mortiers, les mitraillettes, les mecs qui portent les caisses de munitions, les hélicoptères qui passent, Jack Cardiff qui faisait la photo, le mec qui a fait African Queen, Laurence d'Arabie et tout ça. Le moindre type l'accessoiriste avait fait Alien, les électros avaient fait Superman, et tous les effets spéciaux du film, c'était les mecs de Coppola d'Apocalypse Now, la bande à Joe Lombardi en Californie qui faisait tous les impacts de balles, les bombes dans le ciel, etc. Alors là, une histoire formidable, tu vois. Et je me suis retrouvé à Miami pour 3 mois et demi. Miami, et ensuite Honduras, Britannique, Belize. Alors à ce propos, tiens encore un petit détail qui me vient, qui est en plein dans la Casa Vetri, là, qui est dans Gloria, tout à fait. C'est qu'il y a eu un incident un soir dans l'endroit où on était, qui était un énorme hôtel. Il y a eu le coiffeur qui dansait, genre qui s'était déguisé en travesti, un truc comme ça, tu vois, et qui s'est fait malmener par le barman qui a dit pas de ça ici dehors, et puis qui l'a poussé, qui l'a heurté, tu vois, qui lui a arraché une chaîne qu'il avait autour du cou et qui l'a viré. Bon. Alors moi tout de suite aussi réflexe français, quoi, qu'est-ce que c'est, on va aller lui causer. Bon. Et là j'ai vu ce coiffeur revenir me voir le soir vers 6h en me disant là il avait changé de couleur, il m'a dit là faut rien faire là parce que ça va barder, il faut arrêter tout. Et puis on n'y pensait plus, il y avait le tournage, tout ça, je lui dis qu'est-ce qui se passe. Et il m'explique, les chauffeurs de bagnoles, les Teamsters qui s'occupent de la production, tu vois, tous les mecs qu'on avait engagés en Floride, qui étaient des gars bien gentils, c'est les gars qui s'occupaient de mon gosse qui avait 6 ans là, qui se baladait tout le temps, lui, ils étaient là avec des chapeaux de cow-boy, des bottes et tout ça, des bons gros pères tranquilles qui enchaînent film sur film, tu vois. Là, le coiffeur m'a raconté, il y en a un qui est venu le voir, leur chef, et a dit bon, alors qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive au type là, vous voulez qu'il soit je sais plus les mots en anglais, mais l'idée c'était vous voulez qu'il soit marqué ou qu'il disparaisse. Alors le mec a pris ça à la rigolade en disant attention doucement. Et les mecs, très sérieux, ils ont dit non, nous ici c'est notre fief, c'est en Floride, on est engagé pour la partie Floride, après on commence un film avec Burt Reynolds à Jupiter, c'est notre coin ici, il se passe rien, c'est nous, on contrôle, il n'y a pas de problème, vous en faites pas, etc. Et on a eu tous les mots pour arrêter ces mecs-là, parce qu'ils ne voulaient pas aller choper le type dans un coin, mais le type allait vraiment recevoir quelque chose. Et on a compris que tout ça, ça marchait, que c'est des gangs. Et en même temps, c'était des types, je veux dire, très sympas, là, café, le matin, les zoolards en arrivant, mon gosse qui les emmerdait toute la journée. Mais là, d'un seul coup, c'était professionnel. On aurait dit, ce type-là, il faut qu'il marche plus du pied gauche, c'était fait. Sans scandale, c'est arrivé comme ça. Alors là, j'ai compris aussi que ça arrivait, ça, genre de truc. Comme dans Gloria, quoi, comme le début d'un seul coup.
Il n'y a
rien à faire, quoi.
C'est ça, et puis quand elle va voir son ancienne amant.
Exactement.
Et que le type lui explique que c'est pas vraiment un meurtre, que c'est un exemple, qu'il faut pas prendre ça affectivement.
Oui. C'est ce qu'il nous disait, les gars. C'est ce qu'il nous disait. On dit, on fait pas un scandale public dans un bar comme ça sur toute une équipe. On sait que c'est nous qui sommes là. On dit, les responsables de l'ordre, finalement, derrière, c'est nous. Donc, ça retombe sur nous. C'est un problème pour nous de travail. C'est pas du tout de savoir qui a raison ou tort. Ça se fait pas. C'était le type qui a... Ça se fait pas.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un ordre secret, quoi, c'est ça.
Ouais. Un ordre secret qui fait que... Alors, qui déteint après, forcément, que sur le tournage, qui fait que chaque jour de tournage est une journée fantastique, tout le monde est dans une super forme, le plan qu'on tourne est génial, les rushs d'hier, c'est fabuleux, le film va absolument tout casser. Tout est comme ça, tout le temps. C'est-à-dire, il n'y a pas la place pour une des réflexions typiques comme j'ai moi, c'est-à-dire envie de commencer à critiquer le film tout en travaillant à fond sur le film, se recharger un peu les batteries, en n'étant jamais content, etc. Ça n'existe pas. C'est une attitude mentale qui n'existe pas. On est toujours de plus en plus content. Terrifiant, ça, hein ? Alors, par rapport à ça, ce qui était assez drôle, j'étais donc embarqué 3 mois et demi de tournage. On tournait sur des bateaux en pleine mer, des gros noirs qui portent des caisses de munitions, le visage nous peint, nous les beaux mercenaires ariens, avec le maquillage, tu vois, de cirage, les lunettes à infrarouge, le bazooka, enfin le rêve de môme, quoi. Et au milieu de tout ça, je repensais que, effectivement, nous, on n'a aucune chance de faire un film comme ça là-bas, et d'une. Et ensuite, je repensais que tous les gens que j'ai connus en France, où tout le monde râle, où c'est la crise, où il se passe rien, où il y a des gros trusts qui écrasent le cinéma, où, etc. Bon, je suis d'accord. Tous les gens que j'ai connus sur des plateaux et qui avaient vaguement l'idée de faire un film, quand cette idée s'est précisée, ils l'ont fait. Alors ça, c'est fantastique. Alors, je cite, exemple. Il y a quelques années, on était en train de faire La Nuit américaine de Truffaut. On était... Parmi tous les techniciens, il y avait 5 techniciens là-dedans, des copains comme ça, blouson de cuir, plateau, tournage, disons, avec vaguement l'idée de faire un film. À nous 5, on en a fait 8. Il y a eu Pierre-William Glenn qui a fait un film formidable sur la moto, il y a Claude Miller qui a fait 2 ou 3 films qui va en commencer un autre bientôt, il y a eu Pierre Zucca qui en a fait 2, moi j'ai fait Passe-Montagne. Enfin, c'est formidable, non? Là, un autre assistant de Glenn que j'ai rencontré l'autre jour, Chapuis, est en train de faire un film à la Martinique. Qu'est-ce que j'ai connu d'autre? Juliette Berthaud, bah c'est le film que je tourne en ce moment. Juliette, elle m'a fait faire mon premier plan comme acteur. Là, elle fait son film comme metteur en scène. Il y a eu Édouard Niermans qui a fait Entrasse.
Joue dedans,
ouais,
joue dedans, oui.
Joue dans, dans son film Neige, là, qu'elle est en train de tourner. Édouard Niermans a fait Anthracite. Luc Béraud a fait des films. Enfin, tous les types que j'ai connus qui voulaient... la fille qui a écrit un scénario avec moi, la Passe-Montagne, mon premier film, Babou Rapneau, elle a un film qui n'est pas encore sorti, mais elle a tourné un machin en 16 mm en Amérique du Sud. Enfin... Alors, dans un pays où c'est la crise, où les gens vont pas au cinéma, alors chose que personne ne peut m'expliquer, je veux dire, le cinéma n'est pas rentable, etc. Tous les gens qui ont un désir vital de faire un film que j'ai connu, ils y sont arrivés. Je dis pas que ça continuera, mais je dis que pour l'instant, c'est vrai.
D'où vient, Jean-François Stevenin, d'un paradoxe qui est que la France a toujours été, ben ça c'est pour que si on est un peu historien du cinéma français, on s'en rend compte, a toujours été un pays d'admirables spectateurs de cinéma. C'est la condition nécessaire. Mais pas suffisant d'être un bon spectateur. C'est ce qui est arrivé à Renoir, à Gans, à Godard, à Truffaut, à toi. D'abord d'être des bons spectateurs. Et ces bons spectateurs ont éprouvé à un certain moment un désir de cinéma tel, dire qu'à force d'être spectateur, on finit par devenir
voilà,
capable, c'est-à-dire
voilà,
dire,
ouais,
et qu'on soulève des montagnes, c'est le cas de le dire, et que le jeune cinéma français est porté par un très violent désir de faire des films qui ne sont pas faits. C'est-à-dire que quand on est spectateur, on a envie de voir sur un écran un film fait d'une certaine façon, avec une certaine façon de vivre pour les personnages, une certaine façon de vivre certains sentiments, etc. Si ces films, on ne vous les donne pas, eh bien, on les fait soi-même.
Voilà, voilà.
C'est ce qui s'est passé à chaque fois et tous les 10 ans dans le cinéma français. Quelle que soit la crise, puisque la crise, on en parle depuis 1924. Donc, Et il s'est d'ailleurs créé des mécanismes économiques tels que ces films ont pu se faire. Les avances sur recettes, quel que soit le mal qu'on puisse en dire par ailleurs, mais la question n'est pas là, puisque ça a permis...
C'est ça qui me fait marrer, tu comprends. Tu reviens d'Amérique où il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'avances sur recettes, il y a des subventions d'aucune sorte à ce niveau-là pour faire des films. Et chaque fois que ces gars-là, là-bas, voient un de nos films, ils demandent qui a payé. Et on comprend que là, on n'aurait aucune chance, là-bas, de faire La Tortue sur le dos, ou Passe-Montagne, ou des trucs comme ça, tu vois. Alors en même temps, ça s'accompagne chez moi d'une espèce de culpabilité par rapport au public qui fait que moi j'ai envie de faire des films où il y a des gens qui viennent.
Bon, alors bon, parlons de Gloria. Les gens viennent voir Gloria.
Voilà, alors là, quelle bonne surprise. Tu vois, j'arrive l'autre jour, Champs-Élysées pour voir Gloria, je vois une queue immense. C'était comme dans un rêve, parce que moi, tous les Casavettes que j'ai vus, on était 3 dans la salle. Et là, d'un seul coup, le mec, ah, ça va être complet, attention, vite. Et on se retrouve, il y avait d'un seul coup dans la salle, à 10h du soir, autant de spectateurs que pour Asbands en 6 semaines d'exclusivité.
Oui, oui.
Et avec des trucs, alors là, c'est drôle. C'est que au bout d'un quart d'heure, Gina Roland sort un revolver et tire sur quelqu'un de la mafia, et t'as la moitié de la salle qui applaudit. Comme dans un hyper film commercial de quand j'étais petit, tu vois, le dimanche après-midi. Alors, ce qui est très marrant, c'est que tout de suite, les puristes, ça c'est typique français, et c'est une mentalité qui fait pas avancer les choses, c'est tout de suite, on dit, ah non, non, ça, il y a eu les vrais Casavettes, mais alors là, vous voyez, il a pris un virage, parce que d'ailleurs, ça marche, tout ça. C'est-à-dire que pour les puristes, j'ai rencontré certains puristes qui trouvent que c'est pas un vrai Casavette. Alors que ce que je trouve formidable, c'est sa même équipe, c'est surtout Gina Roland, avec laquelle il a tout fait, Et c'est en plus sa même façon de filmer. Alors c'est lui, je trouve, et je trouve qu'il a eu tout à fait raison de le faire, qu'il a, sans se trahir dans sa sensibilité, dans sa façon de filmer des choses importantes comme il fait à chaque fois, c'est lui qui s'est débrouillé pour que les gens, au bout de 10 minutes, soient collés dans le fauteuil et qu'ils n'en sortent plus et qu'ils voient ça comme une espèce de suspense qui va de plus en plus fort. Alors ça, je trouve ça vraiment, il s'est pas trahi du tout. Alors effectivement, au niveau du choix du sujet, plutôt que ça soit trois types dans une chambre d'hôtel qui sont là entre deux verres de gnôle en train de laisser des moments magiques passer entre eux, là c'est une femme avec un orphelin toute seule contre la mafia, l'affiche est faite dans ce sens-là, il faut peut-être faire ça, je sais pas. Mais il ne s'est pas trahi du tout. Et en plus, il montre, t'as l'impression que c'est la première fois qu'on voit un film sur la mafia ordinaire. Faut même pas dire mafia d'ailleurs, faut dire sur l'organisation, sur le travail.
Par exemple, les premiers plans sont extraordinaires. On voit une silhouette dans le
hall. Une chemise,
c'est ça, oui. On voit.
Alors quoi. Ça, c'est pas du Cazavet, hein.
Oui,
la fille qui craque dans son bus, elle rentre chez elle à toute pompe, elle est super belle, elle fout tous ses paquets par terre, elle rentre en cavalant chez elle dans un immeuble sombre, elle arrive au dernier étage, elle rentre, il y a son petit mari qui est derrière la porte en sueur, qui referme tous les cadenas et qui dit, t'as vu un type en bas? Elle dit, oui, oui. Et comment il était? Elle dit, un type avec une chemise.
On
a vu passer la chemise dans le champ. C'est vrai qu'on a vu que la chemise.
C'est ça, c'est vrai.
Alors, il dit quoi? Comment il était? Il dit, un type avec une chemise et des chaussures. Dans son énervement. Et puis les gosses, non, ils ont pas le temps de manger, tous les trucs. Et puis les mecs, on sent qu'ils arrivent dans l'escalier. Terrifiant, ça. Terrifiant. Pas au niveau cinéma, mais terrifiant parce qu'on sent que c'est comme ça. Alors, le Cazavet, c'est ce truc formidable à qui il a réussi. C'est-à-dire à montrer certainement, à chaque fois, il traite un sujet. C'est l'organisation, la mafia. Effectivement, c'est intéressant. Ça, de voir.
Le vrai sujet, quand même, pour lui, ça, si c'est un film de Cazavet, et d'ailleurs, d'une certaine façon, je crois que il y a une. Alors, c'est là que la parenté entre vous paraît évidente, et c'est pourquoi j'ai eu très envie de t'entendre parler de ce film, c'est qu'il s'agit, là encore, d'un couple bizarre, quoi. Il s'agit un peu, d'ailleurs, derrière les couples bizarres, on pourrait penser que c'est un genre nouveau. Enfin, c'est le couple d'Alice dans les villes, c'est le couple de ce type et de cette gosse.
Avec ce gosse pas sympathique, d'ailleurs, que personne n'aime.
Oui, c'est un couple étrange, le couple de Passe-Montagne. Enfin, n'oublions pas que Passe-Montagne passe actuellement aux séances de minuit et de midi, je crois.
Midi,
au Centre des Arts. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une bonne occasion de le voir. Bon, alors, il y a ce couple étrange, qui était constitué de toi et de Villeray. C'était un couple tout à fait bizarre. Enfin, c'est cette rencontre dans une station-service, et puis cette amitié quasiment muette entre vous, etc. Mmh. Alors là, voilà encore un couple étrange. Gina Rolland, que tout le monde connaît, si on connaît les films de Cazavet, qui est la femme de Cazavet, qui est une actrice prodigieuse, qui est l'actrice d'une femme sous influence, et puis un gosse portoricain. Alors j'aimerais bien que tu dis, il n'est pas sympathique, que personne n'aime.
Ouais. J'en parle mal du film, parce que moi je suis sous le choc encore du film. J'ai vu qu'une fois, effectivement, ce gosse, il marche de traviole, il est là, il est pas sympathique. Elle dit qu'elle l'aime pas, bon, mais...
Non, elle dit une chose très précise, elle dit... Elle a cette phrase formidablement drôle. Je n'aime pas les enfants, et les... d'une manière générale, et j'aime pas du tout les tiens non plus. Enfin, quand elle dit à la bonne femme, sauf mes enfants.
C'est ça, elle dit,
c'est extraordinaire.
Ouais, spécialement les tiens, c'est vrai.
Et bon, alors, effectivement, ce gosse, il est odieux, d'une certaine façon.
Oui. Ça, c'est formidable, là, aussi. Et là, alors là, c'est pareil, il se trahit pas non plus, parce qu'il est... Ce qui compte dans Gloria, dans l'idée de cette femme, c'est que, d'un seul coup, elle décide de tout arrêter, elle décide que là, cette fois-ci, ça va pas se passer comme ça. C'est à moitié pour elle-même qu'elle le décide, par rapport aussi à ses problèmes, par rapport aux enfants, etc. C'est pas à cause des beaux yeux de ce gosse. Ça aussi, c'est assez marrant. Et les gens marchent. Je veux dire, les gens marchent, c'est-à-dire que on est avec elle, en train d'essayer de sauver ce gosse qui nous emmerde, finalement. Qui est pas sympathique.
Oui, mais alors, qui est très étrange, son vocabulaire est complètement un vocabulaire de convention contemporaine. Enfin, quand il dit, on va être partenaire, il a le langage amoureux conventionnel, il a le langage des affaires conventionnel. C'est un portoricain complètement colonisé par l'Amérique. C'est ça qui le rend antipathique, c'est qu'il n'y a pas un mot qui vient de lui. Tous ces mots viennent des bandes dessinées, des journaux, de la télé. On sent bien que c'est dans ça qu'il est drôle et touchant au bout du compte. Alors la façon dont elle le regarde, elle, qui a son langage...
Puis pas de sensiblerie, c'est
ça qui est formidable. Aucune.
Pourtant, le gosse, effectivement, il est porté par la situation, c'est terrifiant tout le début du film, mais après, pas de sensiblerie, pas de... Il y a quand même des temps comme ça de regards terribles et tant de respirations qui sont très ambiguës. On ne sait pas trop ce qui se passe là, dans ses rapports avec elle et tout ça. Pour elle, simplement, elle a décidé de s'en sortir. Et en plus, c'est un trajet de perdant, puisqu'à la fin, pratiquement, c'est comme un suicide.
Oui, oui, absolument.
Il sort, il y a un gros empaffé qui nous énerve depuis le début. Elle lui tire une balle bien dans la tête, et puis elle ne s'en sort pas, elle. Donc c'est vraiment un film de Cazavette, de gens enfermés dans leur truc, avec leur code. Et en plus, ce que j'adore, moi, effectivement, ce que j'adore. Et là, ça me... Ah tiens, faut que je te dise ça, ça c'est vraiment important. C'est que quand un film marche pas d'habitude, donc les films de Cazavette qui d'habitude marchent pas, on dit oui, mais là, c'est trop elliptique, on comprend pas, etc. Comme moi, les gens qui m'ont dit, on comprend pas.
Pas mental.
Oui, et quand on parle avec eux, on s'aperçoit qu'ils comprennent tout, mais c'est pas présenté comme d'habitude, alors ils refusent. En disant, on comprend pas. Là, il a rien changé à sa façon de filmer. C'est-à-dire qu'on est dans un code dès le départ. Et effectivement, là, les gens suivent d'un bout à l'autre. Alors qu'il n'y a rien qui explique vraiment. Il n'y a pas de scène d'explication. Il n'y a pas les plans de situation habituels. Il n'y a pas les queues de scène qui te permettent d'enchaîner le reste, etc. Là, t'es tout de suite dans le direct, dans la sensibilité des gens qui ont l'habitude, qui ont vécu déjà une vie entière avec des rapports de mafia à New York, etc. Avec cette fille qui en fait partie, puisqu'elle a été la maîtresse d'un des patrons,
absolument,
d'un des petits patrons, oui, du coin,
c'est
d'ailleurs.
Ça.
Et on est là comme en famille, nous, justement. On est là tout de suite, on est branchés tout de suite.
D'ailleurs, la tête du patron, qui a l'air d'un vieil Italien, tranquille sur sa chaise, est une chose à faire. C'est absolument... Ce qui est formidable aussi, c'est qu'il enlève tout prestige, hein. C'est le contraire du parrain.
Puis des idées de fous, comme de les faire tous siéger dans un immeuble qu'ils viennent d'investir, où il y a encore les cartons par terre, ils n'ont pas fini de déménager. Ces gros mecs avec des cravates qui apportent gentiment un petit café, qui sont là. Mais tu vois ce que je veux dire? Tout de suite, personne n'a de problème de lisibilité de ce film-là, de Cazavette, alors que d'habitude, on dit, bah oui, personne ne veut voir ces films, ce gars-là, parce qu'on comprend rien à ce qu'il fait. Il n'y a pas le code habituel. Donc ça prouve qu'on peut bien faire des films qui marchent sur un public, sans se trahir, et en faisant les ellipses qu'on sent comme étant personnelles, tu vois ce que je veux dire.
Non, mais d'accord, Jean-François Stévenin, mais tout de même, une chose importante, c'est que, après tout, c'est pas un secret nouveau. C'était un secret perdu qu'on retrouve.
Ouais.
C'est le secret du cinéma américain, du grand cinéma américain tel qu'on l'a connu. Dire que La Rivière Rouge, après tout, et Scarface, et Le Grand Sommeil, et Les Hommes Préfèrent les Blondes, et les films d'Hitchcock qui ressortent, etc. On avait bien en commun de clouer les spectateurs sur leur fauteuil, tout en étant des films où quelqu'un qui adore le cinéma s'y retrouve complètement et d'un bout à l'autre. Je crois que aimer le cinéma, c'est aimer attendre. Ce sentiment de l'attente est un sentiment qui est complètement travaillé. C'est-à-dire que il semble bien qu'on entre dans une autre période historique où on peut faire Gloria, peut-être, où on peut faire Le Dernier Métro, je crois. Et où tu vas peut-être faire un deuxième film qui fera dire aux puristes dont tu parles, mais qui me semble être complètement dépassé par l'histoire, cela. Stévenin raconte une histoire.
Il y en a besoin d'une histoire. C'est pas ce qui est essentiel, mais l'expérience prouve, les gens ont besoin de voir une histoire. Et nous aussi.
Et toi aussi. Et,
bien sûr, bien sûr. Et heureusement, tu vois, là, je suis un peu bloqué, là, je vois pas tellement, quoi dire, parce qu'il y a pas de règles. Et c'est pour ça que je suis tellement heureux que Gloria soit là et que les gens y aillent. C'est qu'il y a pas de règles. C'est-à-dire, il y a pas le méchant cinéma commercial contre les géniaux marginaux et tout ça. Et ça, c'est un sentiment aussi que j'ai eu en Amérique, parce qu'après, j'ai pas fini tout. Après, je suis passé directement de Belize, Honduras. On m'a dit, là, vous êtes engagé, film de Houston à Budapest, John Houston. Je me suis retrouvé dans Escape to Victory avec John Houston, 76 ans, impeccable. Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow. Et puis, un stade avec 30 000 spectateurs figurant tous les jours, tu vois, 30 000 mecs, plus 200 personnes dans l'équipe. Pour 6 semaines à Budapest, pour un film qui s'appelle L'évasion vers la victoire, etc.
Enfin, ça devait être extraordinaire.
Ça un autre jour.
Non, mais ça devait être extraordinaire, ce rapport entre Budapest, la Hongrie socialiste, Houston, l'Amérique, etc. Ça devait être extraordinaire.
Extraordinaire, parce qu'en plus, tout ce que je croyais avoir compris à Miami et en Amérique sur les chiens de la guerre, le contraire s'est trouvé démontré à Budapest. C'est-à-dire, j'ai vu une grosse équipe un petit peu paralysée par l'énormité du film et aussi par le fait qu'ils étaient plus chez eux. C'est-à-dire qu'effectivement, le rapport de travail avec les Hongrois faisait que le film fonctionnait plus pareil. Et c'est-à-dire que j'ai vu Houston, vraiment, ça c'était assez émouvant. Là aussi, il n'y a pas de règles dans tous ces tournages. Ça, c'est la grosse découverte pour moi cette année. C'est que il suffit pas d'avoir des millions pour faire des beaux plans. Et j'ai vu effectivement John Huston presque se planter. Tu vois, je l'ai vu se planter sur des trucs qui marchent pas avec tous ses assistants qui lui préparent le plan et tout ça. Et lui qui d'un seul coup, à cause d'un camion qui marche pas parce que le chauffeur a pas compris quand il fallait démarrer, d'un seul coup, lui qui prend la bonne prise au bout de 15 prises, il prend la prise où tout fonctionne à peu près en se disant, je vais faire deux gros plans, on va se débrouiller. Je l'ai vu comme ça, comme un petit gars qui ferait son premier film en 16 mm à Béziers. Alors là, c'est formidable, parce que j'ai vu, il n'y a pas de règle. Il y a du bon cinéma d'un côté et le mauvais de l'autre. Ça, c'est ça la règle, tu vois. Mais ça peut être vraiment dans une petite équipe en France, pourquoi pas, avec 10 personnes et presque pas de moyens. Ou ça peut être formidable aussi, avec tous les moyens qu'on veut, mais c'est pas forcément ni blanc ni noir. Et en plus, je n'ai rien appris sur tous ces films américains. C'est formidable, ça. Il n'y a pas un plan qui m'ait complètement cloué de stupéfaction. J'étais sidéré par les moyens, par tout ça, mais j'étais pas en émerveillement par un travelling que j'ai vu. Je veux dire, dans le dernier film de Godard, j'ai vu des trucs qui m'ont autrement sidéré que ça.
En fait, tu l'as vu, sauf qu'il peut la vie?
Ah ouais, oh là là. Oh là, j'étais... Là, ça m'a fait bizarre, parce que moi, je suis pas un godardien branché, tu vois. Et puis, d'un seul coup, j'ai vu ce film qui passait comme une espèce de... comme une espèce d'élégance et qui touche aussi tout un tas de choses essentielles avec... avec un langage qui n'est pas le mien du tout, avec une personnalité qui est celle de Godard, et en même temps qui rayonne comme ça, comme une espèce de musique, une espèce d'élégance et de rapidité de la tête et du son. Enfin, j'ai vu ça comme ça, rapidement. Ça a été un enchantement, cette histoire-là. Avec des choses inimitables. Alors ça, c'est ça qui est formidable, c'est qu'au moins lui, il peut empêcher des gens de faire des films, parce que quand on voit les ralentis qu'il fait là, que tout le monde peut faire, on voit ça à tous les matchs de foot à la télé, des ralentis comme ça. Lui, il l'utilise d'une telle façon qu'au cinéma, que le prochain qui va essayer de faire ça, on va dire, ah bah oui, c'est comme, mais c'est pas, non, ça c'est pas Godard, quoi. Je veux dire, il a une méthode à lui, tout est à lui, là, dans ses films. Sa provocation, son style, ses rapports à un sens, ce qu'il fait dire aux acteurs, enfin, ça lui appartient qu'à lui. Donc, il faut pas aller sur ces traces-là, mais ça donne envie, effectivement, de découvrir les siennes, et puis il faut ramer, parce que, tu veux dire, tout le monde peut pas faire un film où il y a du tronc qui dit, bah, Marguerite Duras, elle veut pas venir. Marguerite, tu viens? Non? Bon, bah, écoutez, chaque fois que vous allez voir un camion, imaginez que c'est une pensée de femme qui passe. Et le plan d'après, t'as un camion dans Lausanne, un feu rouge. Je veux dire, si tu fais ça demain matin, on dit, mais qu'est-ce que vous voulez, là? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut rien dire. C'est du n'importe quoi. C'est comme un type qui lit Le Voyage au bout de la nuit, qui écrit une lettre à sa grand-mère avec des points de suspension. Il est sincère, mais bon, il faut qu'il trouve son truc.
Mais il me semble qu'il
faut tous qu'on trouve notre truc, nom de Dieu.
Il me semble que tu es en train de le trouver. Non, parce que c'est drôle, parce que c'est finalement c'est une émission. Je me disais, bon, c'est bien, Stevenin parlant de Gloria et en même temps nous disant où il en est. Et il me semble que tout ça est très très cohérent. Tu n'aurais pas pu le dire mieux si je t'avais imposé un plan, une construction, parce que j'ai l'impression que tout appelle tout au nom de cette idée qui finalement se dégage à travers ce que tu dis. C'est que oublions, et je suis content que ce soit toi qui le dise. Parce que nous l'avons dit dans cette émission plusieurs fois, mais pas avec ton langage à toi, et il me semble que le tien est plus décisif, c'est cessons de défendre les marginaux parce que marginaux contre les commerciaux, que tout est beaucoup plus compliqué que
tout
ça.
Tout est beaucoup plus compliqué.
Que cette année et l'année, que cette saison cinématographique est à la fois celle de Gloria et celle d'une certaine façon de l'échec de Shining, du succès commercial extraordinaire du dernier Métro, qui dépasse tout ce qu'on peut dire, du succès complètement inattendu de Sauf qui peut la vie. Dire que là encore, à peine pense-t-on à une règle qu'elle se dément aussitôt.
Voilà, c'est ça que j'adore. Et tiens, il faut absolument que je te dise quelque chose là, dans la trace directe de ça. C'est que, bon, j'ai vu Loulou, Piala, tout ça, Piala que j'aime beaucoup, que je voulais qu'il interprète Passe-Montagne, d'ailleurs, au départ. Et là aussi... D'un seul coup, la surprise, c'est-à-dire l'assistant de Piala, Patrick Grandperret, qui était le producteur de De Lion au soleil, d'un seul coup, à la fin de De Lion au soleil, disparaît avec trois personnes et dit « ça y est, je tourne mon film ». C'est un gars qui a 34 ans, je tourne mon film. Bon, il part, j'entends plus parler de rien. Un jour, je suis invité à une projection de travail et j'ai eu l'émotion de quand j'ai vu les premiers Cassavetes. Ça vient d'avoir le prix Jean-Louis Borry il y a quelques semaines. Ça s'appelle « Court-circuit ». C'est une fiction complète, mais... joué uniquement par des personnages qui font effectivement ce rôle-là dans la vie. C'est-à-dire, ça se passe dans le milieu de la moto de compétition, ça se passe dans la banlieue de Paris, les types qui n'ont pas assez d'argent pour courir et qui se démerdent par tous les moyens pour arriver à régler les motos, etc. On n'a pas besoin d'aimer la moto pour voir le film, on n'a pas besoin de connaître la moto. Et tous les gens qui ne sont pas des acteurs qu'il a utilisés, il les a intégrés dans une espèce de fiction qui est absolument, qui m'a la chair de poule. J'ai vu les deux premières images, les deux premières séquences, je me suis dit ça va s'arrêter, c'est pas possible, et tout le film est comme ça. Et c'est très drôle parce que lui était assistant avec Piala, et effectivement, quand on a vu ce film-là, Court-circuit, effectivement, on se dit, tiens, Loulou, finalement, c'est ça que Piala voulait faire. Et puis, bah oui, Depardieu, le gros Gérard, il est formidable. Bah oui, là, tout ça, c'est bien. Puis d'un seul coup, dans ce film où il y a que des inconnus, il y a un truc en plus comme ça qui passe, qui fait qu'on se dit, tiens, les gens, ils parlent vraiment comme ça, mais il y a des centaines de milliers de mecs comme ça, etc., etc. Et là aussi, donc, j'ai vu qu'il n'y avait pas de règles. Même chose pour Le Dernier Métro. Moi, j'aime pas tous les films à Truffaut, mais d'un seul coup, j'ai vu celui-là. Oh, j'ai senti, c'était une soirée historique, quoi. C'était une soirée historique, ça y est, d'un seul coup. Moi qui suis timide avec lui, je l'ai embrassé, il m'a donné un coup de poing, enfin des trucs qu'on faisait pas, on était énervés. Il y a un truc en plus qui se passe qui fait que faut arrêter de dire, oui, Godard. On parle, t'as remarqué ça, de tout le temps que des gens comme des monuments. Moi aussi, là, j'ai fait plein de trucs cette année, chaque fois qu'il y a un type qui se rappelle de Passe-Montagne, il me sort d'un tiroir, le mec. Ça a la place, c'est une petite pierre dans un cimetière, alors que pas du tout, c'est que des gars. Et je veux dire, il faut avoir une envie de travailler des mentes et puis y arriver. Mais il n'y a pas de règles et ça va continuer comme ça pour des millénaires, moi je suis sûr. Il faut.
Merci Jean-François Stévenin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 janvier 1981. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».
Before Lord God made the sea or land, he held all the stars in the pond. Then the Lord God hunted through the wild night air for the little lost star on the wind down there, and he stated and promised he'd take special care so it wouldn't get lost no more. Now a man don't mind if the sky grows dim and the clouds roll over and darken him, as long as keeping track how it all goes on. But I've been walking through the night and day till my eyes grow weary.